الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالحمد لله عز وجل نواصل دروسنا فيما يتيسر لنا من شرح كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله تعالى وإن شاء الله تعالى سنختم قراءة باب جار اليهودي فقال الشيخ رسلان حفظه الله تعالى هذا هو الخلل الواقع هذا هو الخلل الواقع في المجتمع المسلم اليوم الناس يتعلمون يحفظون المتون يقرؤون كثيرا ويعملون قليلا أو لا يعملون يعملون قليلا أو لا يعملون هذا نفاق لأن الفضل بين العلم والعمل أو الفصل عفوا الفصل بين العلم والعمل هوة لا يردمها إلا النفاق وهذا لم يكن عند سلفنا الصالحين كانوا يتعلمون العمل وأذكركم بالحديث قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. طيب donc je vous rappelle le hadith qu'on va finir d'expliquer aujourd'hui le hadith numéro 128 de Al-Adab al-Mufrad. Il dit l'imam Al-Bukhari Abu Nu'aym nous a rapporté a dit Bashir ibn Sulayman nous a rapporté selon Mujahid qui a dit, nous étions auprès d'Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, alors que son servant était en train de dépecer un mouton ou une chèvre. Et il dit, ô servant, lorsque tu auras fini, commence par en donner à notre voisin le juif. Un homme qui était là, il a dit, yani, qu'Allah te réforme aux juifs, yani, tu vas donner la viande aux juifs. Et tu vas commencer par le juif en plus. Subhanallah. Et là, il a répondu, Abdullah ibn Amr, j'ai entendu certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner des recommandations en faveur du voisin jusqu'à ce que nous ayons craint qu'il en fasse un héritier. Qu'il en fasse un héritier. Naam. Tayyib. Donc, dit le cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala, concernant ce hadith, les choses que l'on tire de ce hadith, Naam, il avait cité donc la parole de Abdurrahman ou Abu Abdurrahman As-Sulami, hein, qui fait partie des Tabi'in, qui a donc appris le Coran. Des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que les compagnons Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apprenaient 10 versets. Et ils ne dépassaient pas les 10 versets avant de les avoir mémorisés, de les avoir compris et de les avoir mis en pratique. Donc une fois qu'ils avaient mémorisé, compris et mis en pratique ces 10 versets, ils passaient à d'autres versets et ainsi de suite. Voyez? Il dit le cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala, ceci donc est une défaillance qui existe aujourd'hui, ou ceci nous renvoie à une défaillance qui existe aujourd'hui dans la société musulmane. Il dit que les gens, ils apprennent, masha'Allah, les gens, ils apprennent. Ils apprennent le Coran, ils apprennent leur religion, ils apprennent la sunna, ils mémorisent les textes. Ils lisent beaucoup, masha'Allah, mais ils font très peu d'actes. Et certains ne font même aucun acte. Il n'y a aucune mise en pratique pour certains de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont mémorisé. Il dit le cheikh, hafidhahullah, ceci est de l'hypocrisie. Ceci, c'est de l'hypocrisie. Wal'iyadu billah. Pourquoi? Parce que le fossé, du coup, pourquoi y a-t-il ce fossé qui existe entre la science de la personne et ses actes? Eh bien, dit ce fossé-là, il est rempli par l'hypocrisie. C'est à cause de l'hypocrisie. C'est cette hypocrisie-là, en vérité, Yanni dit, qui a creusé donc l'espace. Et qui a provoqué ce fossé entre la science et les actes. Et cette défaillance n'existait pas à l'époque de nos pieux prédécesseurs. Au contraire, كانوا يتعلمون للعمل. Au contraire, l'objectif, lorsqu'ils s'asseyaient dans les assises de science, lorsqu'ils apprenaient le Coran, leur objectif, leur intention était de mettre en pratique ce qu'ils apprenaient. ولذلك عندما كانت الآيات يتواتر نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم كان الهم يصيبهم لا لأنهم يشوب قلوبهم شيء تجاه آيات الوحي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا وهم أحب لذلك من حبهم لأنفسهم ولكن لأنهم يعلمون أن الآيات تساوي العمل ستنزل التكاليف ستنزل الأوامر وتنزل النواهي سيبين الله في الوحي المعصوم ما يجب أن يفعل وما لا يجب أن يفعل إذا هذا تكليف. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque les versets le fait que les versets ont été révélés sur le prophète alayhi salatu wassalam, leur préoccupation c'était quoi? Eh bien, c'était de mettre en pratique ces versets qui sont révélés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la préoccupation ou l'angoisse qu'il ressentait lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala descendait un verset, bien sûr, ce n'est pas par rapport à la révélation elle-même, ou par rapport à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au contraire, les compagnons radiallahu anhum sont les plus satisfaits de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb, et ils aiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que eux-mêmes. Mais pourquoi ils étaient inquiets? Pourquoi ressentait-il cette angoisse-là durant la descente des versets? parce qu'il savait qu'il devait appliquer ces versets-là. Et que la science devait être obligatoirement synonyme d'actes. Et qu'avec les versets, hein, il y a ce qu'on appelle « at-taklif », la responsabilité religieuse. C'est-à-dire qu'avec ces versets-là, descendent les obligations d'Allah. Avec ces versets, descendent des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets, il va détailler et exposer la révélation infaillible qu'il est obligatoire d'appliquer. Hein? Et ce qui n'est pas obligatoire d'appliquer, ou ce qui est interdit de faire, ou de ne pas faire. Voyez? Donc par conséquent, il comprenait très bien que le fruit de chaque verset, eh bien c'est la responsabilité religieuse, dans le sens qu'il devait appliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ces versets-là. Voilà. وقد يصيب الإنسان جراء هذا التطبيق نوع من التقصير فهذا يؤدي إلى الهم حينئذ فكانوا يهتمون لذلك ويصيبهم من ذلك ما يصيبهم من الخوف من عدم إتمام ذلك على الوجه المرجو من مثلهم وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. Et donc, l'être humain, se peut que il fasse preuve d'une certaine négligence, hein, une certaine négligence par rapport à l'application de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Et donc par conséquent, lorsque l'être humain se connaît et connaît l'état de l'humain et sa défaillance, c'est normal qu'il ressente une inquiétude. Donc, les Sahaba accordaient une importance énorme à mettre en pratique ce qu'il y a dans les versets. Et c'est pour ça que ils étaient atteints par ce qui les a atteints, comme le fait d'avoir peur. Ils avaient peur de quoi ? Eh bien, de ne pas assumer, de ne pas mettre en pratique ce qu'il y a dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une pratique qui est digne des compagnons, qui est digne de quelqu'un qui a vécu la révélation, et qui a vécu, et qui a vu, et qui a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine la pression qu'il devait avoir. Voyez, contrairement aux gens aujourd'hui, hein, qui ne ressentent, yani, des fois, aucune pression, aucune responsabilité. Ils lisent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ils lisent, hein, des mots, mais qui n'ont aucun sens, car ils ne cherchent pas à savoir le sens de ces mots. Que dire alors de mettre en application ce qu'il y a dans ces mots et ces versets-là, subhanallah. فَهَذِهِ الْوَصْفَةُ مِنَ الْأَهَمِّيَّ بِمَكَانٍ أن نوازن بين القوة العلمية والقوة العملية مهما علمت من شيء فاعمل به. Il dit donc ceci est la description des compagnons radiallahu anhum. Et c'est une description qui est de la plus haute importance. Il faut que nous pesions, ou que nous comparions plutôt, que nous mettions au même piédestal la force scientifique, yani la puissance du savoir et la puissance des actes. La personne se doit d'être cohérent dans ce qu'elle sait et ce qu'elle fait. Taïeb, certains ont un niveau de science, masha'Allah, mais quand tu regardes ses actes, tu vois qu'il y a un fossé gigantesque. Quand tu vois ses actes, tu vois qu'il y a un fossé gigantesque. Il se peut que la personne appelle au bon comportement et tu la vois à côté, au niveau de ses actes, elle ment, elle triche, Elle commet des péchés et à côté elle appelle au bon comportement. Donc là on voit qu'il y a un fossé entre sa science et ce qu'elle fait. Et d'autres c'est le contraire. D'autres vont faire beaucoup d'actes mais sans science. Donc ils vont tomber dans des innovations, dans des actes qui ne sont pas légiférés par Allah. Donc il faut faire en sorte à ce que tes actes soient cohérents avec ta science. Quel que soit ton niveau de science, quelle que soit la chose que tu sais, tu as apprise, mets-la en pratique. Mets-la en pratique. كذلك كان علماؤنا لا أقول كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتاج إلى بيان هذا هو الإمام أحمد الإمام أحمد رحمه الله يقول الإمام أحمد ما رويت حديثا قط إلا وعملت به حتى إنه مر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة يعني حاجمة دينارا والدينار في ذلك الزمان من حيث العرف الاقتصادي يساوي ثروة عظيمة وأن للإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقلله وتقشفه وضيق ذات يده بل خلو ذات اليد من أن يملك دينارا من أن يملك دينارا فما زال يجمع الدينار من جميع وجوهه حتى تحصل عنده فلما احتجم أعطى الحاجم دينارا مع أنه لا يلزمه وإنما يعطى الحجام على قدر ما يجد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الإمام عنه في الحديث أنه أعطى الحجام دينارا فأراد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون ذلك القانون وإنما كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به أما أن تحفظ قال الشيخ احفظ هذا شيء طيب ولكن أين العمل أين العمل سيطالبك الله عز وجل به Et donc, sans parler des Sahaba, il dit le Cheikh, les Sahaba, les compagnons de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait très bien que c'est une génération qu'on n'atteindra jamais le mérite d'avoir accompagné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parlons juste des ulama, des gens de science. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, par exemple, il disait, je n'ai pas rapporté un seul hadith sans que je l'ai mis en pratique. Et combien de hadiths il a rapporté? Il dit, je n'ai pas rapporté un seul hadith sans que je ne l'ai mis en pratique. Il dit, jusqu'à ce que j'ai pris connaissance que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est fait faire al-hijama. Puis il a donné à Aba Taïba, c'est-à-dire la personne qui lui a fait al-hijama, al-hajim, le prophète lui a donné un dinar. Il lui a donné un dinar. Ça c'est un hadith. Et un dinar, à cette époque-là, par rapport à la situation économique de l'époque, c'était une fortune. Un dinar, c'était une fortune, subhanallah. Voyez ? Donc, le prophète, il a donné beaucoup à ce hajim. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, on sait qu'il n'était pas riche. On sait qu'il n'était pas riche. Au contraire. Il était loin de posséder un dinar. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait ? Lorsqu'il a pris connaissance de ce hadith, il a économisé. Il a économisé. Il est parti chercher l'argent là où il le pouvait. Jusqu'à ce qu'il a réussi à économiser un dinar. Et là, il est parti. Il s'est fait faire al-hijama et il a donné un dinar au hajim. Alors que al-hajim, il ne fixe pas de tarif. Hein? Un hajim ne fixe pas de tarif. Il n'a pas dit tu me donnes un dinar en échange. Non. La personne peut donner ce qu'il veut au hajim, ce qu'il peut et ce qu'il veut. Mais pour appliquer la sunna ou le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il voulait à tout prix yani, mettre en pratique ce hadith qu'il a appris. Et donc, il a donné au hajjam, il lui a donné, donc, comme a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Dans le hadith où il a dit qu'il a donné au hajjam un dinar. Donc, il a voulu à tout prix imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que Allah te met la baraka dans ta vie. Wallahi, c'est comme ça. Si toi, tu fais tout pour imiter même des choses qui, aux yeux des gens, paraissent minimes, c'est pas grave. Yani, pourquoi, quand tu t'habilles, par exemple, pourquoi commencer par le pied droit? Pourquoi commencer par le bras droit, la jambe droite? C'est pas grave, c'est rien, ça. Non, c'est pas rien. Wallahi, c'est pas rien. Ça, c'est des petits détails. Grâce à ces détails-là, Allah Jalla wa'ala te met la baraka dans ta vie et dans tes biens. Et donc, les ulama, leur, on va dire leur credo, c'est quoi leur credo? Enfin, leur, ils aimaient répéter que ils demandaient de l'aide dans la mémorisation du hadith en les mettant en pratique. Ça, c'est ce qu'ils aiment répéter. Innama kunna nasta'inu ala hifd al-hadith bil-amal bi. Nous demandions de l'aide dans la mémorisation du hadith. C'est-à-dire que hein, pour mémoriser le hadith, il y a des causes, mashallah. Hein, des causes. Hein, le fait de répéter des centaines de fois, des milliers de fois le hadith jusqu'à ce que tu l'aies mémorisé. Le fait de manger des nourritures. Hein, qui facilite la mémorisation, comme le raisin sec, les fruits secs, etc. Et bien sûr, la première des causes, du'a, demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parmi les causes qui facilitent la mémorisation, c'est quoi? C'est la mise en pratique. Mets en pratique ce que tu as mémorisé, le hadith, tu vas le mémoriser, tu vas le garder en tête. Tu vas le garder en tête. Voyez? Si tu veux, par exemple, retenir le hadith, ihris ala ma yanfa'uk, واستعن بالله ولا تعجز طيب le prophète il te dit sallallahu alayhi wa sallam fais des efforts dans ce qui t'est bénéfique, demande l'aide à Allah et ne faiblis pas et ne sois pas paresseux. Mets en pratique ce hadith, mets-le en pratique, recherche tout ce qui t'est bénéfique dans la vie, demande l'aide à Allah et ne lâche pas tes objectifs, ne sois pas fainéant, ne sois pas paresseux, va jusqu'au bout de tes objectifs. Et ce hadith-là, il te restera en tête. Et tu l'auras retenu, bi'idhnillah, azza wa jal. Pourquoi? Parce que tu l'as mis en pratique. Parce que tu l'as mis en pratique, alhamdulillah. Quant au fait juste de mémoriser, mashallah, tu as mémorisé yani, l'arba'in nawawi, les 40 hadiths de nawawi, tu as mémorisé, je ne sais pas, al-Bukhari, tu as mémorisé l'adab al-mufrad, mais que tu ne mettes pas en pratique ce que tu as mémorisé, là, ce n'est pas profitable. Ce qui est profitable dans l'au-delà, c'est que tu mettes en pratique c'est cette science. Donc mémorise, bien sûr qu'il faut mémoriser. C'est une bonne chose de mémoriser. Il faut que l'on mémorise les textes, le Coran avant tout, puis la Sunna, puis les livres religieux, etc. C'est bien, mashallah. Mais où sont les actes? Où sont les actes? Sache que Allah tabarak wa ta'ala te demandera compte de ce que tu sais et de ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ce savoir et de cette connaissance qu'Allah t'a donnée? Et non. Fa. Ntakhilu ila al-bab alladhi yalih. وهو باب الكرم، باب الكرم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. Donc, inshallah ta'ala, on passe au chapitre suivant, numéro 71. Donc là, on a terminé, alhamdoulilah, tous les chapitres qui concernaient yani, le droit du voisin. Ça y est. On a enfin terminé, bihamdoulilah azza wa jal, le chapitre, le grand yani, chapitre concernant le droit du voisin. Et on va passer ici à un autre grand chapitre intitulé Al-Karam. Al-Karam. On verra c'est quoi Al-Karam exactement. Inch'Allah ta'ala. Et donc, cela me fait penser que arrivera bientôt un examen. Un examen donc, qui va porter sur le début de ce charh de Adab al-Mufrad, puis tous les chapitres qui ont débuté ce livre-là, le chapitre concernant les droits des parents, le droit de la mère, les droits du père, les droits des enfants, les droits de tous ceux qui ont un lien de parenté avec toi, etc. Et enfin les droits des voisins. Donc tout cela, et sans parler également, n'oubliez pas également la biographie de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, pour ceux qui ont suivi les cours depuis le début, il y aura aussi des questions portant sur la vie de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Na'am. Donc ici on passe au bab suivant, qui est bab al-Karam. Et on verra ce que ça veut dire al-Karam exactement. Il dit l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Sallam nous a rapporté et a dit, Abdah nous a rapporté, selon Ubaidillah, selon Sa'id ibn Abi Sa'id, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, donc selon le compagnon Abi Hurayra, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Ayyun nas akram. Quels sont les gens les plus akram, on va dire les plus nobles. Les plus nobles, les plus méritants. Il a répondu, les plus nobles d'entre eux, auprès d'Allah, ce sont les plus pieux. Ce sont les plus pieux. Pour Allah, les gens les plus nobles, ce sont les plus pieux. Et là, ils ont dit, laysa an hadha nas'aluk. Nous ne t'interrogeons pas à ce sujet. En gros, on ne parle pas de ça. C'est pas de ça qu'on parle. Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le plus noble des gens, c'est Yusuf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du bien-aimé d'Allah. Yusuf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du bien-aimé d'Allah. Alayhi wa sallatu wa sallam. Et là, ils ont encore dit, ce n'est pas de ça que l'on parle. On va expliquer, inshallah, après. Et là, il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, vous m'interrogez sur les origines des Arabes? Là, ils ont dit oui. Alors, il a dit, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous, à l'époque pré-islamique, sont les meilleurs d'entre vous dans l'islam, si ils atteignent la compréhension de la religion islamique. Les meilleurs parmi vous, à l'époque pré-islamique, sont les meilleurs parmi vous dans l'islam, si ils ont atteint la compréhension de la religion d'Allah, tabarak wa ta'ala. Taïb. فهذا الحديث في الصحيحين وهو صحيح طبعا الحديث il est présent dans les deux sahih, le Bukhari et le Muslim. Donc forcément, il est authentique. Plus que ça, il a atteint le plus haut degré d'authenticité. Ma'ani al-kalimat. Babun al-karam. Al-karimu huwa al-jami'u li anwa'i al-khayr wa al-sharafi wa al-fadha'il. Donc là, on va expliquer ce que veut dire al-karam. Le chapitre, il est intitulé al-karam. C'est quoi al-karam? De ce mot est tiré al-karim. Hein? Al-karim. Donc c'est qui al-karim? Al-karim, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est généreux. Souvent, on croit qu'al-karim, c'est le généreux. Al-karim, non. Al-karim, c'est plus vaste que ça. Al-karim, c'est quelqu'un qui a réuni tous les aspects du bien. Ça y est, c'est quelqu'un qui a réuni les aspects du bien, de l'honneur et des mérites. Une personne qui est bonne, hein, qui a en elle tous les aspects de la bonté. Une personne qui est honorable. Une personne qui est méritante. Qui a beaucoup de mérite, mashallah, qui a beaucoup de qualités, on dit qu'elle est karim. Elle est karim. Vous voyez? C'est pour ça que, en français, on peut dire noble, quelqu'un de noble, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de méritant. On dit qu'il est karim. Il a beaucoup de qualités. Vous voyez? Donc là, le chapitre concerne donc el karam, l'honorabilité, les mérites. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم عند الله أتقاهم هذا موافق لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا الجواب من جهة الشرف بالأعمال الصالحة. Donc il dit la première réponse qu'il a donnée le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'ils lui ont demandé qui est le plus noble, le plus honorable. Qu'est-ce qu'il a répondu donc? Il a dit le plus honorable parmi eux, parmi les gens, auprès d'Allah, c'est le plus pieux parmi eux. Donc on voit ici donc, que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné une réponse qui est en concordance avec une parole d'Allah, avec le verset d'Allah tabarak wa ta'ala de la sourate al-Hujurat, verset 13, dans le sens rapproché, il dit Allah, certes, le plus honorable parmi vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux parmi vous. C'est le plus pieux d'entre vous. D'ailleurs, donc là, la réponse qu'il a donnée, c'est la réponse d'un point de vue de l'honneur, de l'honorabilité. Ici, c'est sous l'aspect de l'honorabilité à travers les bonnes actions. L'amal saliha. D'ailleurs, donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une réponse en disant que le plus méritant, le plus honorable pour Allah subhanahu wa ta'ala parmi vous, eh bien c'est celui qui fait le plus de bonnes actions. Celui qui sera honoré par ses bonnes actions. Comme il dit Allah, le plus honorable parmi vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Ça y est. فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ وفي رواية قال إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. Puis après qu'ils lui ont fait comprendre au prophète alayhi salatu wassalam qu'il ne parlait pas de ça, il ne parlait pas des bonnes actions de la personne. Hein? Qu'est-ce qu'il a donné donc comme réponse? La deuxième réponse qu'il a donnée, c'est quoi? Le plus méritant des gens, c'est Youssouf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du bien-aimé d'Allah. Donc le prophète Youssouf, alayhi salam, prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, c'est qui ici? Le père de Youssouf, c'est qui? Yaqub. Yaqub, alayhi salam. D'accord? Fils du bien-aimé d'Allah, c'est qui le bien-aimé d'Allah? Al-Khalil. Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam. Ça y est. Donc là, Il faut savoir qu'il manque quelqu'un. Parce que Ya'qub, ce n'est pas le fils d'Ibrahim. Ya'qub, c'est le fils de Ishaq. Et Ishaq, c'est le fils de Ibrahim. Vous voyez? Donc ici, on voit que dans cette version-là, on n'a que trois générations. On a celle de Yusuf, celle de Ishaq et celle d'Ibrahim alayhi salam. Donc, il n'a pas été mentionné Ya'qub ici. Il manque Ya'qub. Et en arabe, c'est possible. En arabe, on a le droit des fois d'affilier la personne directement à son grand-père, sans passer par son père. D'accord? Donc là, c'est comme s'il disait Yusuf, fils d'Ishaq, alors qu'Ishaq, c'est son grand-père. D'accord? Fils d'Ibrahim, alayhi salam. Ça y est? Et sachez également que dans une autre version, on a les quatre. Dans une autre version, on a Yusuf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du bien-aimé d'Allah. On a bien les quatre. Dans une autre version, on a donc Yusuf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils d'Ibrahim. Alayhi salam. Et tous les quatre là, c'est les prophètes d'Allah. Alayhi salam. Ça y est? Et dans une version, il dit le chef, on a également, c'est Al-Karim, le fils de Al-Karim. Hein? Al-Karim, le fils d'Al-Karim, le fils d'Al-Karim. C'est-à-dire, le noble, fils du noble, fils du noble. On parle des mêmes personnes, hein? Yusuf. Le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du bien-aimé d'Allah. Alayhum as-salam. Lakin qalu, laysa an hada nas'aluk. Israrun. من السائل وإلحاح منه لمعرفة الجواب سئل أي الناس أكرم فذكر أكرمهم من جهة الشرف بالأعمال الصالحة قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك هنا جرأة من السائل للإفصاح عن المراد وبيان عدم وضوح الإجابة وفيه تصريح بعدم موافقة الإجابة على السؤال الذي يقصده فأجاب صلى الله عليه وسلم بالشرف من جهة النسب الصالح فحسب النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل إنما أراد الكرم والشرف مما يتعلق بالنسب الصالح يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الرحمن رابع أربعة في النبوة. Naam. Donc, ils ont dit encore une fois, ce n'est pas sur ça qu'on t'interroge. Donc, le questionneur, il a continué, il a insisté ici pour connaître la réponse à la question, en fait, qu'il voulait poser. Voyez ? Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donc interrogé sur qui sont les gens les plus honorables. Donc, qu'est-ce qu'il a cité? On a vu tout à l'heure, la première réponse qu'il a donnée, c'est une réponse sous l'aspect des bonnes actions. Donc, il a dit, les plus nobles parmi eux, auprès d'Allah, c'est les plus pieux, ou c'est le plus pieux. Donc, lui, le prophète, alayhi salam, il est parti directement sous l'angle des bonnes actions, de la piété. Mais ils ont dit, après cela, non, c'est pas ça dont on parle. C'est pas ça dont on parle. Donc là, le questionneur, Yanni, lui fait comprendre ici que son intention n'est pas de parler sous l'angle des bonnes actions. Et donc, il fait comprendre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la réponse, elle n'est pas en adéquation avec sa question, en fait, avec son intention. Ça y est ? Et donc, après cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné une autre réponse, mais sous un autre angle, qui est l'angle de l'honorabilité au niveau de la filiation, au niveau de la filiation noble, de la noblesse de la filiation. Filiation, yani, parentale. Vous voyez ? Et donc, le prophète, il a pensé que le questionneur voulait parler donc de la noblesse et de l'honorabilité au niveau des liens généalogiques, des liens de sang. Et c'est pour cela qu'il a répondu Yusuf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du bien-aimé d'Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah. Donc ici, on voit la réponse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en fonction de la noblesse du lien de parenté. Qui est-ce qui est, quel lien familial est plus noble que celui-là? Un prophète qui est fils d'un prophète, qui est fils d'un prophète, qui est fils d'un prophète. Allahu Akbar. Youssouf, qui est le fils du prophète Ishaq, Yaqub. Yaqub, qui est le fils du prophète Ishaq. Et Ishaq, qui est le fils du prophète
Ibrahim.
Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam. Non. جيد. ثم قال: فعن معادن العرب تسألوني، في رواية تسألونني، قوله إذا فقه بضم القاف أي صاروا فقهاء علماء، وفقه بكسر القاف أي إذا فهموا وعملوا، إذا فهموا وعملوا. فعن معادن العرب تسألوني، معادن العرب أي أصولها، والمعادن هي المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس، والمعدن مركز كل شيء، وهو المراد هنا. قال: فعن معادن العرب تسألوني، أي عن أصولها، فعبر عن القبائل بالمعادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت، أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية للشرف، كما أن المعادن أوعية للجواهر الثمينة، أو تشبيه في قبول إسلامهم وأخذهم القرآن والحكمة على مراتب لا تحصى. إذا فقهوا كما مر، أي صاروا فقهاء علماء، وفقهوا أي فهموا وعلموا، صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية، أو فهموا المراد من الشريعة والعقيدة والتزموا وصاروا مسلمين مؤمنين موحدين. Puis il dit donc, النبي صلى الله عليه وسلم, quand ils lui ont dit encore une fois que ce n'est pas la réponse à la question qu'ils ont posée. Donc c'est lui-même qui leur a demandé, c'est quoi alors? Il leur a demandé, vous m'interrogez sur l'origine ou les origines des Arabes, c'est ça? Et là, ils ont dit, Naam, oui. Et là, le prophète de répondre, les meilleurs d'entre vous, dans l'époque pré-islamique, sont les meilleurs d'entre vous dans l'islam, Ida faqouhou. Donc ici, on a deux versions, soit faqouhou, soit faqihou. Si on dit faqouhou, avec la dhamma sur le qaf, ça veut dire s'ils deviennent des savants, des juristes. Alors que faqihou avec la kasra sur le qaf, c'est-à-dire s'ils ont compris et appliqué. S'ils ont compris et appliqué. Taïeb. Donc ici le mot ma'adin al-arab. Ma'adin al-arab, c'est-à-dire les origines des Arabes. M'interrogez-vous sur les origines des Arabes, c'est ça? Donc, le ma'adin, à la base, le ma'adin, c'est là où on va extraire des métaux précieux de la terre, tels que l'or, l'argent, le cuivre. Ces endroits où on extrait ces métaux précieux, yani, on les appelle al-ma'adin, les métaux, les minerais. Vous voyez? Le singulier, c'est el-ma'din. Et el-ma'din, dans la langue arabe, c'est le centre de toute chose. C'est le centre de toute chose, el-ma'din. Et c'est ce qui est voulu ici. C'est ce qui est voulu. C'est quoi le centre ici? L'origine des Arabes, c'est quoi? Hein? C'est-à-dire, ils ont posé la question sur leurs origines. Et donc, ils ont, pour exprimer le terme de el-usul, les origines, ou la qabaïl, les clans, les tribus, par el-ma'adin. Donc en fait, il voulait parler qui sont les meilleures tribus arabes, qui sont les tribus, les clans les plus honorables, les plus méritants. Hein? Il voulait parler de ça. En sachant que chaque clan, chaque tribu avait des qualités, des prédispositions très différentes les unes des autres. Voyez. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cette image de Ma'adin comme pour dire que les tribus arabes ou les clans yani, peuvent être des contenants d'honorabilité ou des contenants de noblesse, comme ces Ma'adin peuvent être des contenants de pierres précieuses ou de métal précieux tels que l'or, l'argent, etc. Hein? Ou alors, yani, il a fait référence également aussi à leur acceptation de l'islam et le fait qu'ils aient accepté le Coran et la sagesse, mais à des différents niveaux, les unes des autres. Voyez? Fa'ida faquhu, comme on l'a vu, faquhu avec la dhamma, c'est-à-dire sont devenus, s'ils deviennent des juristes et des ulama, des savants. Ou faqihu avec la kasra, s'ils ont atteint la compréhension de l'islam et ils l'ont mis en pratique. Ils sont donc devenus des juristes, des savants, des règles, des jugements religieux et de jurisprudence. Et ils comprennent, yani, les objectifs de la charia ainsi que la croyance et s'y attachent. Ils sont donc devenus des musulmans croyants monothéistes. Donc, les meilleurs yani, clans, les meilleures tribus parmi vous dans la jahiliya, à l'époque pré-islamique, sont les meilleurs d'entre vous aujourd'hui dans l'islam si ils atteignent la compréhension religieuse, s'y attachent et la mettent en pratique et deviennent donc des musulmans croyants monothéistes. Naam, alhamdulillah. Naktafi bihadha al-qadr inshallah ta'ala wa nawasil inshallah al-usbu' al-qadima wal-ilmu 'inda Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali ashabi ajma'in. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.